En 2016, j'ai eu un accident de vélo. J'ai eu une entorse à la cheville. Et le même jour, j'ai appris que mon grand-père était mort. C'était une personne qui était très importante pour moi parce que mes parents sont restaurateurs. Et du coup, c'est lui et ma grand-mère qui s'occupaient de moi et mes frères pendant les grandes vacances. C'est lui qui nous avait appris à jardiner, c'est lui qui nous avait emmenés faire des randonnées dans la montagne. Et il avait toujours eu une vie hyper saine, toujours une personne hyper responsable. Et pourtant, il est mort d'une maladie de merde alors qu'il avait à peine 70 ans. Et du coup, moi, je me suis dit, à quoi ça sert de faire les choses bien si après, t'es pas récompensé? Du coup, j'ai démissionné de mon boulot que je détestais et j'ai pris un aller-retour pour l'Écosse où j'avais toujours eu envie d'aller toute seule pour faire un trek de 150 km entre Glasgow et Fort William qui s'appelle le West Highland Way.
Bonjour et bienvenue dans Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Deux fois par mois, un ou une invitée se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Aujourd'hui, je reçois Mélanie, qui nous amène en Écosse. Avec elle, on a parlé de yoga, on a parlé de deuil, et on a parlé des rencontres salvatrices que l'on peut faire sur la route.
J'ai bourlingué à travers le monde. Je me suis très peu entraînée, puisque j'avais une entorse à la cheville, qui est donc arrivé 2 mois avant que je parte. J'ai acheté une tente, j'ai pris tout le matériel, j'ai un peu regardé la route et tout ça, on m'a filé un guide et tout, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Les étapes, chaque jour, elles variaient entre 9 km à pied et 25, et je crois que j'avais jamais marché aussi longtemps de ma vie. J'avais fait de la rando l'été précédent pendant 3 jours avec mes ados, donc en colo, c'était assez facile. Et du coup, je suis arrivée à Glasgow un après-midi de juin. Et le lendemain matin, j'ai lâché mon gros sac à un transporteur qui allait l'amener jusqu'à la fin de l'étape. Et je suis partie avec mon sac à dos 2 jours pour cette première étape. Et j'étais extrêmement saucée de pouvoir marcher toute seule et de voir le paysage, voir les fleurs, voir les animaux. J'ai croisé une biche le premier jour. J'étais là, putain, ça y est, je suis en pleine nature. J'étais presque Bear Grylls. Et j'ai croisé le premier jour quelqu'un qui a été extrêmement sympa, qui faisait le chemin en sens inverse, qui m'a filé des petits conseils pour le camping et tout ça. Enfin, vraiment, c'était très cool. Et après, j'ai croisé une autre personne qui m'a dit de manière très paternaliste « Mais pourquoi tu fais ça toute seule? Tu es une femme, tu ne devrais pas faire ça. » Et du coup, je lui ai dit d'aller se faire foutre et ça m'a encore plus motivée à faire ce truc jusqu'au bout. Et à la fin de la première journée, je suis arrivée assez tôt au camping. Du coup, je me la racontais grave. Et j'ai même fait du yoga en me disant « Je vais m'étirer comme ça demain, j'aurai pas de courbature. » Et c'est quelque chose que je regretterai par la suite, puisque je me suis coincé un nerf au niveau de la hanche et que du coup, pendant les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir mal au genou, mais vraiment très très mal. Et ça m'empêchera d'aller jusqu'au bout de la randonnée. Du coup, deuxième jour, avec descendage de montagne extrêmement difficile parce que j'avais les pieds mouillés, parce que mon genou commençait vraiment à me faire mal et que je comprenais pas pourquoi. Et à la fin de la journée, je suis arrivée quasiment en pleurant au camping, en me disant « si demain c'est pareil, j'arriverai jamais jusqu'au bout et tout, c'est trop dur ». Et en fait, le troisième jour, je suis repartie. La nuit avait un peu reposé mon genou, du coup ça allait. Et en plus, cette étape était plus ou moins plate. Du coup, j'ai pu marcher jusqu'au bout sans avoir trop mal. Sachant que c'était l'étape la plus longue, genre 25 km. Je suis partie à 9h le matin, je suis arrivée à 19h le soir. C'était horrible, enfin genre, il commençait à faire nuit quand je suis arrivée au camping. J'ai dû monter la tente sous des nuées de midges. Horrible. Les midges, il faut savoir, c'est des tout petits moustiques qui ressemblent à des moucherons et qui se baladent en nuée et qui piquent. Ça fait pas très mal quand ça pique, mais après ça gratte pendant environ 2-3 semaines. Donc c'est vraiment horrible. Et il n'y a pas grand-chose qui les éloigne. Au début de la randonnée, je voyais des gens avec des moustiquaires de tête et je me foutais de leur gueule. Et après, j'en ai acheté une. Et le quatrième jour, c'était une étape assez courte. Et en fait, mon genou a commencé vraiment... En fait, mon genou me faisait vraiment mal sur les descentes. Et là, il y en a une. Et j'ai dû faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure avant de pouvoir remarcher. Et je me disais, mais... qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin, je suis même pas à mi-chemin, je peux pas arrêter tout de suite. En fait, c'était un défi que je m'étais mis à moi-même et il fallait que j'aille jusqu'au bout parce que sinon, je faisais pas honneur à mon grand-père, en fait. Je faisais ça pour moi, je faisais ça pour lui, je faisais ça pour me prouver que j'étais capable de faire quelque chose et c'était vraiment trop difficile, mais en même temps, je voulais pas arrêter, quoi. Et le cinquième jour, le chemin passait par un village où il y avait une gare et une gare routière. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le train jusqu'au bout? Est-ce que je prends le bus? Est-ce que je fais du stop? C'est le moment de prendre une décision. Et en fait, la seule chose qui m'a poussée à continuer, en fait, c'est de savoir que mon sac voyageait. Et que si j'allais jusqu'au bout, je ne pourrais pas récupérer mes affaires avant genre 2-3 jours. C'est vraiment le seul truc qui m'a poussée à continuer ce jour-là. Et je suis arrivée au bout de cette étape. Et du coup, ça faisait 5 jours que j'avais parlé à quasiment personne à part des gens sur la route qui me disaient « You're doing great !» avec un fort accent écossais. Et ce soir-là, je faisais du camping sauvage à côté d'un hôtel. Ce qui est autorisé en Écosse, il faut le savoir. Et il y a deux gars qui ont commencé à installer leur tente à côté. Et je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais aller leur parler. Mais je suis pas quelqu'un de très sociable. Du coup, c'était compliqué. Et en fait, j'ai vu qu'ils se sont installés à une table de pique-nique pour dîner. Et du coup, je suis allée vers eux et j'ai dit, est-ce que je peux aussi me mettre là? Et on a commencé à discuter. Et c'était deux cousins allemands qui faisaient ce voyage... avant que l'un d'entre eux parte aux États-Unis pour une année. Et on a commencé à discuter, et il y en avait un qui était blessé, enfin qui s'était fait mal au bas de la jambe. Et du coup, il avait pris le bus pour cette étape-là du voyage, et pendant ce voyage en bus, il avait rencontré une Écossaise qui faisait elle aussi une partie du voyage en bus. Et du coup, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux venir avec nous ce soir? On va boire un verre avec elle et tout ça. » Et du coup, je me suis dit « Bon, bah, why not ? » Enfin, on va voir ce que le soir nous réserve. Et on a rejoint ces Écossaises qui étaient en fait des dames qui avaient entre 40 et 55 ans et qui faisaient le West Island Way entre copines en dormant à l'hôtel et en buvant de l'alcool le soir. « The Scottish Way ». Et elles étaient trop cool, trop sympas, elles nous ont filé plein de trucs, enfin elles se sont occupées de nous comme des bébés et tout ça, enfin c'était vraiment hyper agréable d'avoir ce genre de personnes quand t'as mal et que tu viens passer 2-3 jours de merde et tout ça, et ça m'a vraiment remotivée. Ah oui, et il faut savoir que dans l'après-midi, j'avais re-étiré ma jambe pour essayer de faire passer la douleur, et du coup j'avais décoincé le nerf dans ma hanche, et du coup je pouvais remarcher sans douleur. Et donc j'étais prête à repartir le lendemain en me disant, cette fois j'aurai plus mal au genou et tout ça, ça va être cool, tout va bien se passer, je vais pouvoir finir, il restait 3 étapes et tout ça, donc j'étais plutôt confiante. Et du coup le lendemain, on part avec ces dames, je pars avec ces dames pour faire l'étape du jour, et c'est trop cool et tout ça, et au début ça se passe hyper bien, vraiment on arrive en haut d'une montagne, on a un panorama de ouf, et je me dis c'est pour ça que je suis venue ici et tout, c'est trop cool. Et en fait, plus la journée progresse, plus je commence à me voir mal dans l'autre genou, parce que du coup il avait compensé pendant ces 2-3 jours, et que du coup là il me faisait savoir que c'était terminé, et je savais que cette douleur-là, elle pourrait pas s'en aller, je pourrais pas débloquer cette douleur. Mais je voulais encore pas abandonner. Et à la fin de la journée, pareil, camping et tout ça, le lendemain je repars, et le lendemain j'étais à nouveau seule, et je devais monter, c'était une très courte étape, où je devais monter les escaliers du diable, qui portent extrêmement bien leur nom. J'en ai vraiment chié, c'était horrible, genre j'ai pleuré et tout. En plus, il faisait un temps de merde la première fois où vraiment il faisait un temps horrible, c'était pour monter ces escaliers de merde. Et en redescendant, vraiment la descente a été extrêmement douloureuse. Mon genou me disait que c'était mort, enfin, j'irais pas plus loin. Je suis arrivée au bout de l'étape et j'avais réservé un spot de camping dans un pub. Et du coup, j'ai demandé au pub si je pouvais avoir de la glace. J'ai mis de la glace sur mon genou. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça a l'air d'être vraiment la fin, le bout du rouleau. Enfin, si tu continues, tu vas te blesser définitivement et tu pourras peut-être même plus marcher. Et je me suis dit, écoute, on verra demain matin. Tu fais une soirée tranquille. Il y avait un match de foot. Je crois que c'était la Coupe d'Europe. Et c'était la France qui jouait. Je me suis dit, j'ai regardé le match et tout, et je me suis dit, bon, on verra demain comment ça se passe. J'avais pas envie d'abandonner, parce que, encore une fois, vraiment, je tenais à aller jusqu'au bout, mais je me suis dit, il reste qu'une seule étape, il reste que 25 kilomètres, peut-être que je peux le faire, quoi. Et le lendemain matin, en me réveillant, j'avais encore mal au genou, et je me suis dit, ben, c'est terminé, en fait, enfin... Là, je peux pas... En plus, le début de l'étape, c'était vraiment une grosse montée d'une montagne. Et je me suis dit, je pourrais pas le faire. Vu comment j'ai galéré hier, je pourrais pas, j'y arriverai pas. Et j'ai... En allant pour prendre le bus pour aller à la dernière étape, j'ai recroisé les dames écossaises. Et elles m'ont dit qu'elles étaient hyper fières de moi et que j'étais arrivée jusque-là et que c'était déjà vachement bien et qu'il faudrait juste que je revienne une autre fois pour finir l'étape. Et du coup je suis allée à Fort William en bus. J'ai quand même pris la photo devant la ligne d'arrivée, même si j'ai pas fini l'étape à pied. Mais voilà, j'ai fait 125 km à pied sur 150 et je trouve que c'est quand même une réussite, même si je suis pas allée jusqu'au bout par mes propres moyens.
Merci pour ce témoignage. Qu'est-ce qui définit pour toi un voyage dont tu vas te souvenir par rapport à un voyage un peu plus lambda? Est-ce que ça va être ce que tu as réalisé? Est-ce que ça va être tes rencontres? Ce que tu as vu? Qu'est-ce qui a fait que ce voyage que tu nous as raconté là, c'était celui que tu voulais nous raconter et pas un autre?
Ce voyage, plus qu'un autre, il m'a formé parce que c'était un voyage un peu initiatique finalement, où j'ai vachement appris sur moi, sur ma capacité de résilience, sur le fait d'aller vers les autres aussi, ce qui est un truc que avant je faisais très très peu. Et genre là, j'ai été poussée à bout et j'ai vu mes ressources dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que je m'en souviens, et aussi la raison pour laquelle je l'ai fait, enfin c'est important. Et ouais, c'est vraiment le voyage qui m'a le plus marqué dans ma vie.
Tu mentionnais voilà que tu n'avais pas parlé à quelqu'un depuis 5 jours, je crois, quand tu as rencontré les Allemands et les Écossaises. Est-ce que c'est avant ce voyage ou de manière générale tu voyages seul, tu vas vers les autres, t'es un peu réservé, est-ce que tu voyages avec des amis, c'est quoi ta manière de voyager en fait?
Alors depuis ce voyage, j'adore voyager seul. Vraiment, je trouve que ça pousse à l'introspection. Et en plus, ça te laisse vraiment une liberté en fait pour faire ce que tu veux, pour organiser le voyage que tu veux, sans compromis et tout ça. Du coup, comme j'ai la chance d'être célibataire, je peux voyager comme je veux, quand je veux, où je veux. Et ça, c'est très cool. Mais j'adore voyager avec mes copines aussi et découvrir des nouvelles villes ou ce genre de choses.
Quand t'as choisi un pays dans lequel tu souhaites aller, est-ce que tu te renseignes avant, tu lis de la littérature, tu vas t'intéresser à l'histoire, à la langue un petit peu, ou est-ce que t'es plus découverte sur place? À quel point tu prépares en fait ton voyage?
Je prépare un petit peu. Généralement, je regarde des blogs ou des vlogs sur ma destination pour voir un peu s'il y a des trucs intéressants à faire ou à voir. Mais sur ce voyage-là, j'avais vu des trucs qui étaient limite en mode survivaliste. Voilà tout ce que vous devez mettre dans votre sac à dos. Et en fait, ça faisait des sacs à dos de 25 kilos. Donc je me suis dit peut-être c'est pas... Enfin, on va pas dans un pays... extrêmement difficile, enfin, c'est l'Écosse, il y a des toilettes dans les campings à chaque étape, donc il faut pas pousser non plus. Mais ouais, j'ai découvert pas mal de trucs par moi-même durant ce voyage, et du coup j'aime bien faire ça, ne pas trop organiser chaque minute et vraiment voir sur place ce qu'il y a en ce moment, ce qui peut être fait, tout ça.
Ok, donc tu laisses une certaine part à l'improvisation et t'es flexible, t'es pas je sais que je dois arriver à tel hôtel dans lequel j'ai déjà effectué ma réservation ce soir à 18h, enfin tu t'arrives dans une ville ou dans un camping et tu vois s'il est possible de dormir sur place sans pour autant avoir ton petit mail de confirmation pour dire c'est bon, c'est là que je vais, quoi.
C'est ça. Bah, là, en fait, c'était différent parce qu'il y avait un chemin à suivre. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai poursuivi mon voyage pendant encore genre 5 ou 6 jours. Et en arrivant à Fort William, je savais pas du tout où j'allais aller. Et en fait, j'ai pris le train d'Harry Potter. Je suis allée sur l'île de Skye. Après, je suis redescendue à Inverness et tout ça. Enfin, c'est des trucs que j'avais pas du tout prévu. Je me suis vraiment laissée porter par quelqu'un qui m'a pris en stop, qui m'a dit on va à Inverness. Et du coup, je me suis dit allons à Inverness. Et voilà. Et je trouve ça intéressant aussi de suivre le flow.
Comment tu documentes tes voyages? Est-ce que tu prends des photos? Est-ce que tu as un carnet de bord? Est-ce que tu prends des vidéos pour faire des montages un petit peu après pour comment tu racontes ton voyage une fois que t'es rentré?
Je raconte mon voyage en vidéo. J'aime bien faire plein de petites vidéos et faire un montage après. Ça me permet de garder des souvenirs visuels et animés de ce que j'ai vécu et je trouve ça assez cool. Plutôt que juste des photos que tu regarderas plus jamais. Là, la vidéo, tu parles du voyage à un pote et tu fais regarde et tout, c'est la vidéo que j'ai fait, c'est trop cool et voilà.
Pour parler du retour, comment tu gères le retour? Est-ce que t'as un espèce de blues post-voyage? Comment tu le soignes? Est-ce que tu le soignes en pensant du coup à ta prochaine destination? Les gens que t'as rencontrés sur place qui te manquent, comment tu gères le retour?
Alors, le fait de faire une vidéo, justement, ça permet de gérer le retour parce que du coup, t'es encore dans tes souvenirs et tu montes tout ça et du coup, tu te rappelles du truc. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est écouter de la musique du coin. Genre, pour moi, c'est la musique écossaise, c'est mon grand plaisir. Même encore cet été, je suis repartie en Écosse avec ma maman et en rentrant, j'ai écouté de la musique écossaise à fond la caisse dans mon salon et ça me permet de mieux survivre à la transition.
Tu parlais des rencontres que t'as fait sur place. Est-ce que tu gardes le contact avec tes compagnons de voyage? Vous vous envoyez des messengers de temps en temps, des mails, vous vous revoyez après. Est-ce que tu gardes contact? Et si tu gardes contact, comment tu gardes le contact?
Ouais, c'était vraiment la toute première fois que je rencontrais des gens en voyage avec qui j'ai maintenu le contact après. Du coup, les dames écossaises, on s'envoie encore des messages de temps en temps. Et un des deux Allemands est devenu presque mon meilleur ami. On s'est revus l'année dernière pour le nouvel an et cet été. Et on s'envoie des messages assez souvent. Et vraiment, enfin, je l'adore et je suis trop contente d'avoir eu la chance de le rencontrer durant ce voyage.
Toi, en ce moment, si tu dois avoir une... Si tu avais une wishlist, dans quel pays tu voudrais aller et pourquoi?
Alors, j'aimerais aller au Canada parce que j'adore les grands espaces et vraiment, je pense qu'on peut pas faire plus grand que le Canada. Et j'ai une pote qui habite là-bas, qui habite à Vancouver. Et en fait, ça a l'air magnifique, ça a l'air très vert et très nature et c'est vraiment un truc qui m'attire. Donc, ouais, j'aime bien quand il fait froid aussi. Donc le Canada, il est en top number one, quoi.
Est-ce que t'as un dernier mot, une reco, une anecdote à raconter sur ce voyage? Quelque chose qu'il faut faire absolument? Quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire? Si tu veux avoir l'occasion d'ajouter un dernier mot, c'est le moment.
Aller sur l'île de Skye, c'est l'endroit le plus magnifique du monde.
Merci.
Merci.
C'était Bourlingué, le podcast qui donne la parole à ceux qui voyagent. Merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en me donnant des étoiles sur iTunes ou en laissant un gentil commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner via votre application d'écoute préférée. Enfin, vous pouvez nous suivre via Instagram bourlingué.podcast. Ah, et une dernière chose, la musique que vous entendez là s'appelle « J'ai bourlingué » et elle a été composée par Serge Raphaël. Merci à lui. C'est vrai que j'ai cherché ailleurs une partie de moi, mon bonheur.